France Culture.
Et alors que les lycéens reçoivent cette semaine leurs résultats sur Parcoursup et qu'Elisabeth Borne vient de présenter son plan consacré à l'orientation, débat ce soir consacré au rôle des études supérieures, notamment à l'université. Alors assiste-t-on aujourd'hui à une remise en question des formations générales et quelle est la raison d'être même des universités françaises, former des citoyens ou former des travailleurs? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir, Monique Kantos-Perber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, ancienne directrice de l'École Normale Supérieure, ancienne présidente de Paris Sciences et Lettres et l'autrice notamment de cet ouvrage intitulé « L'oligarchie de l'excellence, les meilleures études pour le plus grand nombre », c'est aux presses universitaires de France. Face à vous, Bruno Andréotti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes physicien, professeur à l'université Paris Cité, chercheur au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure. Vous êtes par ailleurs vice-président de l'Association pour la Liberté Académique qui co-organise l'Agora Sciences Université Recherche des 16 et 17 juin afin de mener un travail de réinstitution de l'université, vous nous direz de quoi il s'agit, et du système de recherche. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du Soir et je précise que l'actualité aujourd'hui de l'éducation c'était évidemment le meurtre à nos gens en Haute-Marne d'une surveillante de 31 ans tuée au couteau par un élève aux abords du collège Françoise Dolto. Évidemment cette émission se fait en pensée avec ses proches et avec la communauté de l'éducation tout entière. Merci encore d'être présent ce soir dans Questions du Soir.
Nous aurons besoin de nos universités, comme d'ailleurs du monde de l'entreprise, dans nos collèges et dans nos lycées, pour améliorer notre organisation et d'investir sur ce sujet. Mais nous devons aussi investir davantage là où les besoins de compétences actuelles et futures de notre pays sont les plus importants, en assumant que la logique aussi de l'offre prenne le pas sur la logique de la demande. L'orientation doit évoluer pour mieux répondre aux besoins des métiers de la nation et pour donner toutes leurs chances d'insertion aux étudiants. Et donc c'est un travail d'orientation, mais aussi un travail où nous devons assumer ensemble de penser en quelque sorte, la gestion des compétences dont la nation a besoin à 5 ans, à 10 ans, et de penser l'ouverture des filières, de l'investissement dans l'enseignement supérieur à la lumière de cette gestion des talents et des compétences dont nous avons besoin.
Il y a Monique Kantos-Perber, dans ce discours du président de la République donné en 2022, la volonté de dire, d'expliquer que le rôle fondamental de l'université, c'est notamment de professionnaliser, de préparer les étudiants au monde professionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la mission première, fondamentale de l'université est d'abord et avant tout celle-ci ?
Mais absolument, nous formons des étudiants à l'université pour les préparer à la vie active, c'est-à-dire à jouer, à être véritablement autonomes dans leur rôle social, à avoir un métier, à pouvoir progresser, à être capables de façonner leur vie, avoir tous les éléments de formation qui leur permettent d'avoir la vie qu'ils souhaitent avoir. Donc bien sûr, on prépare les étudiants à une vie professionnelle qui occupera probablement une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années plus tard de leur vie. En revanche, comment les prépare-t-on à la vie professionnelle ? Est-ce que c'est en professionnalisant les études dès le début ? Est-ce que c'est en orientant dans une spécialité immédiatement l'étudiant ? Là, je ne crois pas, voyez-vous. Je pense que la formation doit se concevoir comme un processus. Première chose, donner des bases solides à l'étudiant, des bases en matière de raisonnement, des bases en matière d'expression. Malheureusement, les étudiants qui sortent de l'enseignement secondaire aujourd'hui sont plutôt en défaut sur ces questions-là. Donc d'abord, solidement les former intellectuellement, par les disciplines scientifiques, bien sûr, lorsqu'ils souhaitent s'orienter vers ce genre de métier, certainement par les disciplines qui ont trait à l'informatique ou au numérique, puisque c'est aujourd'hui omniprésent, quel que soit le métier, mais aussi travailler les qualités de raisonnement, les qualités de rigueur, les qualités de justesse, d'organisation, de capacité de conduite opérationnelle, toutes qualités générales qui doivent être toujours en ligne de mire de la formation universitaire, parallèlement à la formation à un métier, à des connaissances spécialisées, qui doit prendre de plus en plus de place, évidemment, au fur et à mesure qu'on se prépare aux débouchés professionnels. Donc oui, préparer des personnes qui auront une vie professionnelle gratifiante et en évolution, mais pas les préparer en les informant dans une spécialité dont on n'est même pas sûr qu'elle existera encore sur le marché du travail dans une trentaine d'années.
Bruno Andréotti, vous êtes sur la même ligne pour définir, justement, circonscrire ce qu'il revient à l'université française de faire pour ses étudiants ?
Alors d'abord, l'université est une partie de l'école, je veux la lier à l'ensemble de l'école, comme commun de la société, comme pilier de la démocratie, comme endroit où se fabrique une culture commune, des savoirs communs. Pour faire société, il faut une école forte et, à mon sens, publique. Et l'université, dedans, elle a pour mission, en tout cas dans la vision qui naît de l'héritage qu'on appelle humboldtien, qui vient de la tradition allemande du 19e, de créer, transmettre, critiquer, conserver les savoirs et, du point de vue des étudiants, qui est une vocation d'émancipation, comme on vient de le dire, de construire sa vie, d'avoir une vie la plus ample et riche possible, et donc aussi de préparer à toutes les formes du travail, le travail aussi bien salarié que social que le travail démocratique.
Je précise simplement, humboldtien, ça vient du linguiste prusse Humboldt qui a justement participé à construire, à forger l'université de Berlin. Et dans sa pensée, il y a une idée fondamentale, il faut déconnecter les savoirs enseignés à l'université, la recherche menée à l'université, des attentes du marché du travail et de l'économie en général.
Alors, en tout cas, quand au 19e, il y a eu vraiment deux écoles de pensée. Nous, on est dans l'héritage napoléonien qui a fonctionné sur le lycée, qui est la grande structure napoléonienne, et des écoles professionnelles qui ont évidemment leur utilité. On forme des médecins, on forme des enseignants, c'est très bien. Et dans un moment de renouveau humaniste, qui peut-être suit une période comme celle qu'on traverse en ce moment. Von Humboldt, il y a deux frères, donc il y a pas forcément la fondation de l'idée moderne d'université a été créée avec cette idée du savant qui enseigne, qui produit les savoirs et les transmet, du savant en sa solitude. Et on peut voir les conséquences aujourd'hui d'un siècle et demi de tradition séparée, à la fois économiquement, l'économie allemande, bon, peut-être pas là depuis un an et demi, mais est florissante beaucoup plus que la nôtre. Et ces héritages au long cours, ils marquent... Il marque encore nos institutions, il marque des traditions et d'une certaine manière, la France n'a pas encore connu d'université au sens humboldtien fort du terme, aujourd'hui.
Mais donc pour vous, Bruno Andréotti, en quelques mots, est-ce que vous trouvez que pour l'instant, ces universités sont trop tournées vers la formation professionnelle, vers ce qu'attend le marché du travail, ou bien la mission de l'université est tout autre, c'est d'abord de former des citoyens, comme vous le laissez entendre?
Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit très tournée vers l'enseignement professionnel. Les mutations des 20 dernières années sont un peu d'une autre nature que ça. Si on va au fond de l'idée des compétences, ça vient d'une ligne de pensée qui remonte à l'après-guerre et à deux Nobel d'économie successifs, Schultz et Gary Becker. Et Schultz était plutôt de gauche, enfin néo-keynésien à l'époque, et a résolu un problème qu'on appelle le résidu de Solow, qui est un problème très intéressant, qui est la part de la production économique qui n'était pas expliquée ni par le surcroît de travail, ni par le surcroît d'investissement ou de capital. Et l'explication, c'est qu'il y a des facteurs, qu'il a appelé le capital humain, qui permettent d'accroître la productivité, qui sont l'état de santé. Et s'est en suivi une période florissante pour le savoir, d'investissement massif dans la science, dans l'éducation. Et c'est là qu'a été inventé l'idée d'université au sens états-unien, qui est l'endroit où se forme la classe moyenne, c'est-à-dire l'université de masse, on l'appelle l'université démocratisée, mais on peut dire de masse. Dans, dans ce sillage-là, il y a eu une sorte d'histoire sur laquelle on va revenir dans les questions suivantes, de l'idée de compétence et de capital humain. Et on peut voir que ces dernières années, c'est pas tout à fait cette conception originaire du capital humain qui est mise en avant dans les politiques publiques.
Bon, mais vous nous donnerez votre point de vue personnel. Je reviens vers vous, Monique Cantos-Sperber. Est-ce que, dans le fond, une question qui se pose aussi, est-ce que ce n'est pas au marché du travail lui-même de former, justement, professionnellement ? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il revienne à l'université de saisir cette mission ?
Encore une fois, nous devons absolument préciser ce que nous entendons par former professionnellement. J'ai enseigné plusieurs années à Stanford et ce que j'ai observé, c'est qu'au moment des graduations, au mois d'avril, les étudiants... Les étudiants étaient mis en contact avec tous les employeurs de la Silicon Valley qui se rendaient sur le campus et qui faisaient leur recrutement. Je vous assure que le fait que l'étudiant soit diplômé en grec ancien, en géosciences, en histoire du 19e ou en mathématiques, importait relativement peu. La seule chose qui les intéressait, c'était la qualité de la formation intellectuelle, de la capacité à maîtriser un projet et à le conduire. Et nous avons dans tout le monde anglo-américain, et en particulier aux États-Unis, qui pour l'instant continuent à faire avec surtout les Britanniques, mais bon, ils n'ont que quelques très grandes universités, elles sont plus nombreuses aux États-Unis, ils continuent à faire la course en tête. Nous avons des systèmes de formation à ce qui est quand même l'excellence professionnelle, parce que regardez les résultats de l'économie américaine, précisément où on ne spécialise pas dans les études, mais où l'on forme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on donne aux étudiants les capacités d'adaptation, les qualités intellectuelles fondamentales qui leur permettront de s'adapter très vite, de pouvoir affronter le renouvellement des compétences, qui est une réalité aujourd'hui dans le marché du travail, qui leur donnera les moyens de constamment être en maîtrise sur l'avenir professionnel et l'offre de marché de travail qui se présentera au moment dans les différents moments de leur vie. La formation est là et elle est l'œuvre de l'université, mais ça ne signifie pas l'instruction dans un métier. Alors évidemment, lorsqu'on est scientifique, lorsqu'on est médecin, il faut commencer à faire des sciences et de la médecine très tôt, ça va de soi, mais sans négliger une formation d'un autre type, qui est une formation véritablement des qualités intellectuelles. Et dans les premières années, dans les undergrads aux États-Unis, au moins première et partie de la seconde année, les étudiants sont très libres de ce qu'ils choisissent. Ils peuvent avoir un cursus en mathématiques, mais choisir aussi de faire du chinois ou de l'histoire ancienne, enfin comme ils le souhaitent. On valorise cela parce qu'on considère que toutes les disciplines concourent à former des qualités intellectuelles qui seront ensuite, même sur de appliquées à de tout autre sujet, extrêmement appréciées dans le monde professionnel. Et je crois que cette perspective à l'égard de l'éducation est une des clés de la réussite de l'économie américaine, avec sa souplesse, sa force d'adaptabilité, sa capacité à anticiper les innovations qui vont arriver. Mais si vous voulez, la question fondamentale de l'université, puisque notre ami a mentionné les frères Humboldt, qui sont vraiment les deux grandes figures, ils ont inventé l'université moderne. Et j'insiste sur le point que cette idée de l'université de Berlin a surgi après la défaite de Tilsit, donc la Prusse s'est retrouvée réduite à la moitié de sa surface, de ça. Et ce roi militaire a décidé, ce roi soldat, a décidé, justement, alerté par les deux frères Humboldt, Wilhelm et Alexander, a décidé de miser sur la formation. C'était ça l'idée. 1812, l'université Humboldt est inaugurée à Berlin. Cette université, c'est la première université de recherche, c'est-à-dire on considère que enseignement, formation et recherche doivent être couplés, c'est fondamental, et qui considère que la meilleure professionnalisation commence par la formation des qualités intellectuelles. Et Étienne Boutmy, dans la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, dira vraiment la force de l'Allemagne, que ce soit son armée ou son économie, c'est dû à l'université de Berlin.
Émile Boutmy,
pardon.
Bruno Andréotti, justement, quand on constate ce que explique là Monique Cantos-Sperber sur la façon peut-être dont certains étudiants américains ont la liberté d'aller vers des cursus beaucoup plus littéraires, beaucoup plus tournés vers les sciences sociales, sans s'inquiéter peut-être de ce qu'attendent de les entreprises. Est-ce qu'en France, c'est un problème, j'allais dire, de liberté au sein même des universités, ou bien est-ce que les entreprises, les recruteurs en France ne sont pas capable ou à même de reconnaître l'intérêt d'avoir une formation en grec ancien ou en histoire du 19e siècle, pour reprendre les exemples qui ont été donnés?
Alors, je ne suis pas sûr du tout que ça soit le cas. C'est-à-dire, il y a des lieux communs sur l'employabilité, par exemple, des étudiants en sociologie. Mais la formation en sociologie, il n'y a pas de problème d'employabilité au bout. Donc, il faut se méfier des rumeurs qui courent. L'université, aujourd'hui, fait encore assure des cours de très haut niveau. Dans ce contexte, il faut séparer, je pense, cette idée de pouvoir faire sa vie professionnelle qui existe, qui est importante, et puis ce que produit dans le réel le fait de passer par l'université pour la société dans son ensemble. En ce moment, quelles sont les choses qui, l'année dernière, semblaient être les métiers d'avenir? Prompter une IA. Cette année, prompter une IA est devenue déjà pratiquement obsolète. Donc on voit cette idée de segmentation des savoirs qu'il y a à l'intérieur des compétences, d'isoler des morceaux de savoir qui seraient valorisables pour en extraire une plus-value par rapport à l'investissement que consentent les familles, que consentent les étudiants eux-mêmes, surtout dans le système états-unien, dans lequel les étudiants s'endettent énormément pour leurs études. Alors, je voudrais venir au point spécifique des États-Unis. En ce moment, les universités états-uniennes sont sous attaque de la coalition entre les paléo-conservateurs, les libertariens et une partie des milieux économistes. Et dans cette attaque, il y a une attaque à la fois contre la démocratie, contre l'idée même de vérité qui est quand même au fondement du travail scientifique et de l'université. Et puis, il y a autre chose qui se joue, c'est que précisément cette idée selon laquelle l'idée des grandes universités privées américaines, selon laquelle les étudiants investissent pour avoir non pas un salaire, mais une sorte de plus-value de cet investissement qu'ils ont consenti dans leurs études, eh bien, provoque d'immenses mécontentements. D'abord parce qu'il y a cette crise de l'endettement étudiant. Ensuite parce que, avec la stagnation économique, les salaires ne sont pas à la hauteur des investissements consentis. Et enfin, parce que ça crée une société qui se distord dans ses composantes et dont on voit aujourd'hui le drame qui constitue pour l'idée même de faire société et l'idée démocratique.
Je reviens un instant, Monique Cantos-Sperber, sur ce que vous développiez tous les deux, à savoir qu'on a de plus en plus des universités tournées, orientées vers des compétences qui évoluent d'une manière constante et d'une façon de plus en plus rapide. Est-ce que l'université française a pris ce virage-là, et est-ce que vous estimez même qu'il est important que l'université prodigue beaucoup plus des compétences que des savoirs?
Alors, les deux sont absolument nécessaires, mais voyez-vous, un cursus universitaire, aujourd'hui on considère que ça dure en général 5 ans. Licence, c'est-à-dire le premier cycle, et le master, éventuellement pour ceux qui le souhaitent, le doctorat. Donc, mais au moins 5 ans. 5 ans, c'est long. Il n'est pas nécessaire de donner à chaque année le même accent ou la même orientation. C'est une stratégie de formation qui doit se voir quand même sur un temps de plusieurs années, et dans l'intérêt des étudiants. Parce que quand on observe les taux d'employabilité avec une licence, les taux d'employabilité avec une licence master, c'est-à-dire concrètement la possibilité d'avoir trouvé un CDI au bout de combien de mois, eh bien les chances sont beaucoup plus élevées évidemment avec un master. Et c'est normal, nous sommes dans des sociétés qui sont extrêmement exigeantes aujourd'hui en termes de compétences, et il y a beaucoup de jeunes bien formés, donc c'est tout à fait naturel. Or, 5 ans, ça donne suffisamment de temps pour un travail en profondeur sur la formation intellectuelle de fond et la spécialisation, évidemment. Tout dépend de la manière dont les choses sont combinées. Mais il est évident que l'étudiant qui sort au bout de 5 ans, qu'il ait étudié, l'économie, ou qu'il ait étudié... la médecine, c'est évidemment pas suffisant, mais il a une véritable connaissance de savoir spécialiser. Ça va de soi, on ne peut pas exercer un métier si on n'a pas un minimum de savoir spécialiser, de connaissances techniques. Simplement, il faut avoir acquis ces connaissances techniques d'une façon telle que lorsque les compétences et les savoirs se renouvellent, ce qui arrive quand même très souvent dans notre société, d'ailleurs le taux d'accélération et de renouvellement de ces savoirs ne cesse de s'élever, eh bien il faut également avoir été formé à la possibilité de s'adapter à ce qui va venir. Il n'y a rien de plus dommageable pour un jeune aujourd'hui que d'être enfermé dans une spécialité, dans un savoir-faire, qu'on appelle sa compétence ou savoir, sans lui avoir donné les qualités intellectuelles et les ressources de personnalité également qui lui permettent de s'adapter à autre chose. Vous savez, ça a l'air, évidemment, pour tous ceux qui ont reçu une bonne formation, l'idée de s'adapter à autre chose, ça paraît très facile. Pour ceux qu'on a enfermés très tôt dans une technique, c'est très difficile. C'est un travail considérable d'arriver à se déprendre de ce qu'on a appris et de refaire le chemin à rebours, en quelque sorte, pour avoir les moyens de se renouveler. Et à mon avis, c'est sur ça qu'il faut parier. Les universités aujourd'hui ont un rôle difficile à jouer, puisqu'il faut qu'elles forment des spécialistes, bien évidemment. Mais il faut aussi qu'elles fassent de ces spécialistes des personnes qui sont capables de se repositionner sur d'autres spécialités, et ce n'est possible qu'avec une formation. Alors, qu'on a tort d'appeler généraliste, parce qu'elle n'a rien de général, une formation extrêmement rigoureuse et solide de toutes les capacités qui font qu'on est capable de rebondir, on a les savoir-faire intellectuels suffisamment entraînés pour pouvoir immédiatement assimiler d'autres compétences.
Bruno Andréotti, votre point de vue justement sur cette logique de compétences à l'université ?
Alors, il y a deux choses qui se tissent depuis 20 ans, dont on voit l'évolution lente, pas spécialement ces temps-ci. Une première chose qui se tisse, c'est qu'il y a une volonté affirmée depuis un peu plus de 20 ans de nourrir une sphère de la formation et de la recherche privée. C'est-à-dire de mettre tous les moyens de l'État pour l'accélérer. Ça fonctionne d'un certain point de vue. Le supérieur privé est en croissance continue depuis 20 ans. Elle est un peu au-dessus de 10% maintenant. Et il y a une quantité d'argent public qui va dans les formations en alternance, dont je suis pas sûr que l'objectif soit tant de bien former que de nourrir cette sphère privée. L'argent qui va à l'alternance, de mémoire, c'est 27, ça dépend un peu comment on compte, mais 27 milliards, c'est-à-dire des sommes qui sont considérables, et l'investissement par étudiant est significativement supérieur à ce qu'on reçoit à l'université pour former un étudiant.
Vous voulez dire qu'elles servent bien plus les entreprises que les étudiants?
Oui, il y a une volonté de nourrir des grands groupes du privé. Il y a eu un scandale récent avec l'excellent libre qui s'appelle Le Cube, montrant l'absence de contrôle public, les déficiences des formations qui sont prodiguées dans ces grands groupes de formation privée. Et donc, derrière la rhétorique, je suis absolument d'accord sur ce qui a été dit précédemment sur le fait qu'une formation intellectuelle, une formation au raisonnement, une formation même disciplinaire des modalités de raisonnement est ce que demandent les entreprises dans le réel. Donc, il y a quelque chose qui se joue d'ordre politique qui est un peu différent de ça. Par ailleurs, l'université n'est en rien responsable de la situation économique. La situation économique, elle vient des choix économiques globaux. Et à nouveau, on peut retracer depuis 20 ans pourquoi on est dans cette situation de stagnation. Mais en aucun cas, l'adaptation de l'université ne pourrait redresser les choix macroéconomiques faits.
Une réaction, Monique Kantos-Perber, sur la place croissante prise justement par ces grands groupes de formation privée. Est-ce qu'ils sont d'abord, selon vous, l'illustration d'un échec du public ou des politiques publiques de manque de soutien justement à l'égard de l'université ?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent la situation actuelle, mais l'histoire vient de très loin, vous savez, parce que lorsque l'université a été recréée, alors bon, je ne suis pas. Évidemment, on n'a jamais eu les frères Humboldt qui revenaient créer une université dans les autres pays européens ou aux États-Unis. Mais cela dit, on peut dire quand même que le modèle de l'université de recherche, tel qu'il a été illustré à Berlin pour la première fois avec l'université Humboldt, s'est mondialisé. D'une certaine manière, toutes les universités, même celles qui existaient comme depuis plusieurs siècles, bon, à commencer par Oxford et Cambridge, mais même chez nous, elles ont pris le tour, elles se sont humboldtisées d'une certaine manière.
D'allier justement enseignement et recherche.
C'est-à-dire avec cette volonté d'allier enseignement et recherche, et aux États-Unis, l'université américaine, alors bien sûr, Harvard a été créée à la fin du XVIIIe siècle, mais les grandes universités américaines, la plupart se sont créées à la fin du XIXe siècle. Pour toutes celles qui avaient de grandes prétentions internationales, ça existait même à la fin du 19e aux États-Unis, elles se sont coulées dans le modèle humboldtien. D'ailleurs, le nombre d'universitaires allemands qui sont arrivés aux États-Unis pour aider à la création de ces universités est colossal. Et même chez nous, Victor Cousin d'abord, et ensuite les responsables de l'éducation supérieure sous la Troisième République, qui ont véritablement refondé l'université à la fin du 19e siècle, ont souhaité aussi faire quelque chose comme une université de recherche. Le problème, c'est que nous avons en France une autre tradition, qui est une tradition quand même napoléonienne, ça a été évoqué, et qui est une tradition, c'est vrai, de spécialité, de compartimentalisation, de départementalisation, quand même assez bureaucratisée, avec un rôle de l'État très très centralisateur. Évidemment, les ambitions qu'on pouvait avoir de faire comme cela se fait aux États-Unis, en Angleterre et parfois en Allemagne, ont été un peu contrariées par cette tendance opposée. Mais enfin, tout de même, nous avons en France aujourd'hui des universités de recherche dont les laboratoires sont mondialement connus. L'université où enseigne notre collègue, bon, l'école normale supérieure, elle est plus petite taille, un très fort investissement dans la recherche. Pierre et Marie Curie, l'université de Strasbourg, l'université de Grenoble, on a des universités exceptionnelles.
Mais la croissance du privé, alors, d'où vient-elle ?
Alors, elle vient de quoi ? Ben justement, c'est pour ça que je faisais ce long détour, c'est que lorsqu'on a recréé les universités en France, et déjà, oui, on a une tendance quand même, à la française, à concevoir la formation des étudiants un peu comme la formation de futurs professeurs. C'est-à-dire qu'on a laissé complètement de côté ce qui commençait à apparaître comme le besoin d'une formation professionnelle. Et en particulier en deux domaines, qui étaient l'ingénierie, d'une part, et ce qu'on appelait, à partir du début du XXe siècle, les études commerciales. Donc, l'État s'est en quelque sorte défaussé de ces deux formations, considérant que ça sortait du périmètre de l'académie. Donc, dès la fin du XIXe siècle, début XXe, il y a eu des chambres de commerce dans toute la France, alors souvent avec des orientations culturelles ou religieuses, en particulier dans le nord de la France, qui ont créé leurs propres écoles de formation, écoles supérieures. Et certaines des grandes écoles commerciales viennent de là. Et puis, il y avait, dès le XVIIe siècle, des écoles d'ingénieurs qui avaient été créées, l'école des mines, elle est très ancienne. L'école des ponts et chaussées a été créée aussi au XVIIIe siècle. L'école polytechnique pendant la Convention. Et tout ça, c'est resté en dehors de l'université. Alors aujourd'hui, ces écoles, pour la plupart, soit dépendent du public, comme l'école polytechnique, soit continuent à dépendre des chambres de commerce. Elles ont le plus souvent un statut associatif, donc ce qui est quand même non lucratif. Mais évidemment, assez vite, au cours du XXe siècle, des écoles privées, alors cette fois-ci lucratives, sous forme de sociétés commerciales, se sont créées pour précisément prendre en charge cette formation qui avait de plus en plus de succès dans la société, qu'on pourrait à proprement parler de la formation professionnelle, en particulier dans les affaires d'études commerciales et ingénierie, ensuite informatique, et puis maintenant des écoles de théâtre, toutes sortes d'écoles, écoles de mode, etc., qui ont été, où les fonctions de formation ont été assumées par des entités privées, le plus souvent commerciales. Alors, si vous voulez, il est difficile d'apprécier le rôle de l'État dans tout cela. Il est évident que si les institutions publiques se chargeaient de ce type de formation, il n'y aurait pas eu le besoin.
Il y aurait moins de place laissée au privé.
Ben évidemment. Bon, il y a eu une sorte de partage des tâches, d'une certaine manière. Alors, ça, c'est les purs. Hein. Il est évident que les universités ont bien vu qu'il y avait là des possibilités d'expansion considérables et certaines d'entre elles ont essayé de développer des espèces de formation interne. Certaines grandes écoles aussi. Mais il reste qu'il y a quand même une forme de clivage qui reste et qui, est quand même une difficulté pour notre enseignement. Quand nous allons aux États-Unis, les grandes universités américaines, elles ont tous les départements rassemblés en leur sein, même la formation artistique. L'école de la School of Performing Arts à Stanford ou à Princeton, par exemple, où j'ai également enseigné, sont intégrés dans les universités. Nos écoles de formation artistique, chez nous en France, sont des écoles professionnelles. Alors, elles sont publiques, bien sûr, mais elles sont professionnelles. Elles ne sont pas universitaires.
La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Elisabeth Borne, qui évoque le sujet majeur de l'orientation.
Vous savez que cette année, on a près d'un million de jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup, dont 200 000 en réorientation. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important et il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain.
Dès la maternelle, Bruno Andréotti, on ne va pas revenir sur cette idée quelque peu saugrenue, mais tout de même l'idée de s'orienter au plus tôt, de penser justement à l'orientation dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est une idée pertinente justement dans le monde que vous décrivez, de compétences constamment renouvelées et d'attentes fortes du monde professionnel ?
Donc, je pense qu'on a déjà suffisamment de recul, non pas sur Parcoursup en tant que tel, mais sur le bac Blanquer, les effets des spécialités prises très tôt pour pouvoir dire des choses sur ce que fait ce système. Ce système, d'abord, il exerce une pression excessivement forte sur les jeunes gens qui entendent le mot Parcoursup plus d'une fois par jour, depuis la quatrième jusqu'à la terminale. C'est oppressant au possible. Mais le fait d'avoir des stratégies qui commencent dès la seconde, c'est-à-dire dans des moments dans lesquels on est quand même ni majeur ni adulte, en train tout juste de se former, de se projeter dans l'avenir, et dans un système opaque, c'est-à-dire ce qui a été annoncé dès le début par Monsieur Blanquer, qui était que n'importe quel choix de spécialité ouvrait à n'importe quelle formation supérieure, eh bien c'est rigoureusement faux. Si on n'a pas fait le choix science et vie et de la terre et qu'on demande une formation de biologie avancée, eh bien simplement on ne peut pas y accéder, c'est factuel. Si on n'a pas choisi les mathématiques qui sont et demeurent sélectionnantes, à tort ou à raison, dans le système actuel, parce qu'on n'est pas prévenu des règles du jeu, eh bien, les lycéens se retrouvent bloqués dans leurs aspirations. Donc, c'est évidemment beaucoup trop tôt et beaucoup trop enfermant comme système. Et là encore, il y a des raisons qui sont extrascolaire, en particulier l'investissement dans la formation des enseignants, d'avoir des enseignants de mathématiques en quantité suffisante pour former tout le monde. Il y a une proposition alternative assez simple qui serait d'avoir un bac qui, au contraire, n'aurait que 4 ou 5 disciplines pour tout le monde. Et ça aurait un immense avantage dans la construction de la société, dans ce savoir commun, dans l'aspiration démocratique, cet anti-système dans lequel on formerait, jusqu'à la terminale, avec des options peut-être, mais en tout cas, pas cette dynamique d'enfermement dans des spécialités aussitôt.
Et puis je reviens, Monique Kottosperber, sur une idée peut-être toute simple, toute bête, mais pour s'orienter très jeune, il faut quand même connaître un peu le vaste monde, savoir quelles sont les différentes filières, quels sont les différents métiers, quelles sont les différentes opportunités. Comment s'orienter quand on ne connaît pas ce monde-là ?
Ça n'a aucun sens. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Évidemment, c'est très bien pour les enfants de s'imaginer pompier, coiffeuse, médecin, chirurgien. C'est très bien, ça les fait rêver. Et puis, ça nourrit les ambitions familiales. C'est extraordinaire. Mais enfin, l'orientation, c'est une chose extrêmement sérieuse. Donc, en effet, formation fondamentale, 5 disciplines. Vous savez, dans ses mémoires, Churchill, qui était le cancre d'entre les crancres à l'école, dit « De toute ma scolarité, je n'ai appris qu'une chose ». Savoir écrire l'anglais et savoir le parler. C'était un apprentissage très difficile, mais avec ça, j'ai su tout faire, affronter toutes les situations. Voilà, je pense que, bon, évidemment, mutatis mutandis, c'est quand même une bonne leçon à revenir. Une formation solide qu'on charge au maximum, les exigences de rigueur, les exigences de précision, qu'on apprenne aux enfants ce que c'est que la recherche des savoirs, la vérification des faits. Si on les dote de toutes ces habitudes dont ils sont loin d'être dotés à la fin de leur parcours secondaire, déjà, on aurait fait un grand progrès pour l'intelligence collective de notre société. Et ensuite, bien sûr, une spécialité. Je suis, quant à moi, tout à fait opposée aussi à cette réforme du lycée qui a transformé le choix entre des disciplines et le projet de la formation intellectuelle d'un
esprit. Vous parlez de la réforme Blanquer.
Oui, tout à fait, en une sorte de shopping list dans laquelle il faut cocher. On demande à des enfants de faire leur CV, en quelque sorte, pour les études supérieures, alors qu'ils n'ont aucune connaissance, aucune information. Alors, évidemment, tous les enfants issus de milieux défavorisés seront beaucoup plus à l'aise, aidés par le milieu familial pour le faire. Mais pour en venir à l'essentiel, puisque je vois que notre émission est près de se terminer, la possibilité, en effet, pour l'université de retrouver cette forme de sérieux, d'exigence dans la formation, mais aussi de liberté. Une spécialisation extrêmement exigeante, mais à partir d'une formation générale. Et un rôle très large et très fondamental à l'université. On n'a pas du tout parlé du rôle économique de l'université, mais plus l'université a des résultats de recherche, plus son taux de dépôt de brevets est important, plus le fait qu'elle soit à l'origine d'une croissance pour le pays, le taux de croissance d'un pays est strictement en rapport avec la qualité de ses universités. Donc c'est un enjeu, il n'y a pas d'investissement collectif plus rentable qu'investir dans la qualité de la formation et la qualité de la recherche. Et n'oublions pas que l'université, c'est l'école de l'avenir pour les jeunes. Les jeunes qui sont dans l'université, ils rêvent à leur avenir. Il ne faut pas les décevoir. Il faut que l'université leur donne tous les moyens d'avoir véritablement un avenir. Et dernière mission aujourd'hui, l'université a une guerre culturelle, précisément aux États-Unis aussi, défendre la rationalité, défendre la rigueur, défendre l'exigence intellectuelle. C'est là qu'on l'apprend.
Et aujourd'hui, sans doute, plus que jamais. Merci beaucoup à tous les deux. Monique Kottosperber, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, et Bruno Andréotti, physicien, professeur à l'université Paris-Cité, chercheur au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir.